Nous avons partagé ce matin sur pas mal de sujets. Et il est question de joie avec le Seigneur. Il était question de réanimer la flamme que Satan essaie toujours d'éteindre. Dieu nous appelle à la piété, comme nous l'a rappelé Didier ce matin. Comme le rappellent plusieurs hommes de Dieu, dont celui qui était cité ce matin, Calvin, l'apôtre Paul, les apôtres ont parlé de la piété assez régulièrement. Le Seigneur a mis à notre disposition le Consolateur, l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui garde la flamme allumée. Et cet Esprit Saint n'est rien d'autre que Dieu lui-même en nous, puisque les trois sont un, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ce matin, Dieu nous appelle à la patience. À la patience tout en cherchant à affermir notre cœur. En ne cherchant que le Seigneur et le Seigneur seul. Rien autour que le Seigneur seul et depuis pas mal de temps. Nous tournons autour du même sujet. Chercher le Seigneur seul et rien d'autre. Ce n'est pas facile, comme il l'a dit Jean-Louis. Ce n'est pas évident, mais dans la communion fraternelle, dans l'Église, et l'Église n'est rien d'autre que Christ, tout devient possible. C'est-à-dire, nous sommes appelés en tant que frères et sœurs à concrétiser dans la communion fraternelle cette communion que nous avons avec le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à nous connaître, à connaître comme le monde se connaît, mais à nous connaître par celui qui nous a connus le premier, le Seigneur Jésus-Christ. Tout cela parce que nous sommes l'Église. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Le monde vit dans l'obscurité. Il ne se rend même pas compte parce que pour lui, il y a la lumière. Mais le monde est aveugle et le monde cherche à ce qu'on soit dans le monde. En sorte que les aveugles veulent conduire des aveugles et les deux tomberont dans un trou. Le jour où le Seigneur viendra, ce sera un jour de ténèbres, comme l'a rappelé Viviane. Un jour de ténèbres pour ceux qui sont dans les ténèbres. Mais pour nous, comme nous venons de le dire, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde et nous devons être cette lumière qui luit dans l'obscurité. Nous parlons de variants. Mais le monde est infecté par un variant énorme, celui de la cupidité, celui du rejet du Seigneur. Le monde connaît ce variant terrible, celui qui dit que l'homme devient Dieu, on n'a pas besoin du Seigneur. Au point que ce variant a enlevé le goût de ce monde. Et le monde pense qu'il a du goût. Il ne se rend même pas compte le monde que ce monde est devenu fade. Et ce qui se passe avec ce variant est un enseignement pour l'Église. Nous parlons du variant qui touche le corps de l'homme. Mais le pire des variants, c'est celui où le monde rejette Dieu au point que l'humanité, le monde devient fade. Il ne se rend même pas compte qu'il n'y a plus de goût. C'est dans ce monde-là que nous sommes le sel de la terre. Nous devons donner du goût au monde. Nous sommes appelés en tant qu'Église à témoigner du Christ. Nous sommes en tant qu'Église à donner ce goût, cette envie de manger dans ce monde. Nous sommes le sel de la terre. Mais tout cela n'a aucun sens s'il n'y a pas de communion avec le Seigneur. Nous pouvons pratiquer jour après jour toutes différentes, je dirais, tradition. Et nous parlons de Noël. Oui, dimanche prochain, nous allons célébrer la nativité. Et j'entends ici et là dire que c'est à Noël que Dieu est venu visiter le monde. C'est à Noël que Dieu visitait l'humanité. Je dis non. C'est pas à Noël que Dieu visitait l'humanité. C'est à la croix que Dieu a visité l'humanité. C'était pas à Noël que Dieu a rencontré l'homme et la femme, l'humanité. Non. C'est sur la croix, quand le Seigneur il a dit, tout est accompli sur la croix. Quand il a dit, maintenant je me donne pour l'humanité. C'est sur la croix, quand il s'est identifié à chacun de nous. C'est dans la croix, sur la croix, quand il a pris chacun de nous sur la croix pour payer le prix. C'est là que Dieu a rencontré l'humanité. Et ce n'est pas un Noël. Ce n'est pas la nativité. Certes, c'est un grand jour. La naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons célébrer cela. Mais c'est à Pâques. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que cette fête est la seule dans l'Écriture qui est célébrée. S'il y a une seule fête, une fête qui est célébrée réellement, et on fait le lien avec le monde chrétien, eh bien, c'est la fête de Pâques. C'est celle-là que les chrétiens sont appelés d'abord à célébrer avec une crainte et beaucoup de respect. Mais nous célébrons quand même la nativité dimanche matin autour de la lecture de la parole de Dieu, autour des chants, et avec beaucoup de participation, je dirais même exclusivement, la participation des enfants. La communion de l'Église avec le Seigneur n'a aucun sens s'il n'y a pas un élément indispensable. Le Seigneur lui-même a donné cet exemple tout au long de son ministère, et ça fait des semaines que nous évoquons cet élément-là. Eh bien, c'est la prière. C'est le sujet d'aujourd'hui, la prière. Je ne vous cache pas que, à mes habitudes, c'est vendredi, que toute la semaine, on y pense ensemble, c'est vendredi que le sujet est défini pour le dimanche. Et bien, jusqu'à dimanche, je ne savais pas quel sujet aborder. Et bien, suivant nos rencontres, que ce soit le mardi, le vendredi, et bien, le sujet était clair. Et j'étais touché par les messages de certains frères sur la prière. La prière est un ingrédient indispensable pour la vie de l'Église, pour la vie de chaque chrétien. Et je vais me contenter ce matin de partager avec vous deux lectures de deux frères, deux hommes de Dieu, que je ne connais pas personnellement, mais qui m'ont touché, avec des mots simples sur la prière. Le premier, c'est David Smithers. Je ne vous dis pas que je le connais personnellement, mais par recoupage, par différentes lectures, par ceux qui ont parlé de lui, par les sites que je connais pertinents, dont Sentinelle de Néhémie, où Viviane faisait quelques traductions il y a quelques années, et bien cet homme de Dieu évoque la prière. Donc je vais vous lire un petit passage de ce qu'il a dit sur la prière. Le deuxième, c'est un homme de Dieu, un Indien, qui est né en 1950, si je ne me trompe pas. Veuillez me pardonner si je ne peux pas vous donner exactement son nom. Et j'ai entendu son témoignage. Il est bouleversant, son témoignage, cet Indien. Cet Indien qui était touché dans sa vie chrétienne par sa propre mère. C'est un chrétien qui a vécu en Inde, et qui a donné un témoignage sur ses enfants qui errent dehors. Cet Indien, on dit hindou plutôt, il vient d'Inde. Il a grandi dans une famille chrétienne. Sa mère est une fervente chrétienne. Elle prie beaucoup. Et il a assisté à des scènes telles que, par exemple, l'esclavage moderne en utilisant les enfants pour mendier. Et il a donné un témoignage où des bandits ramassent des enfants et les emmènent et exprès leur mettre un produit dans les yeux pour qu'ils deviennent aveugles et les envoyer mendier pour apporter l'argent. Oui, nous sommes en France. Mais savez-vous que dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça? Il a prié, il a même créé des fondations, il a sauvé des enfants, que ce soit en Inde, même d'autres pays d'Asie. Et il est parti aux États-Unis pour faire des études de théologie. Ce qui m'a touché dans son témoignage, c'est quand il a dit, quand j'ai fait mes études de théologie, un matin je me lève et je vois dans la bibliothèque plein de livres devant moi. Mais mon cœur était vide. À quoi me sert toute cette théologie? Alors qu'avant, j'étais dans un monde où je pouvais apporter de l'aide, dans la prière, même apporter de l'aide. Mais il a quitté cette théologie. Et il est revenu dans le monde. en tant que chrétien, œuvrer en tant qu'être simple, sans chercher des diplômes. Cet homme donne le témoignage de sa maman qui vit en Inde. Et il dit, on s'occupait de notre maman, avec mes frères, tout ça, on se retrouvait toujours chez elle, on lui envoyait de l'argent pour qu'elle vive, tout ça, pour qu'elle subvienne à ses besoins, parce qu'il a perdu son père. Et le jour du décès de sa mère, il est retourné en Inde. Il m'a dit, comme toutes les traditions, donc j'ai vu mon frère, mes frères, on a dit maintenant, bon, maintenant c'est la question d'héritage, il faut s'en occuper maintenant. C'est la loi, c'est la règle. Et il s'est dit avec ses frères, bon, maintenant on lui a tellement envoyé de l'argent ici, là, pendant des années. Et quand on la voit comment elle est, elle ne se changeait même pas d'habit, jusqu'au point des fois, il l'a grandée, m'a dit ma mère. Oh, c'est la honte pour la famille. Moi, habille-toi bien comme il faut, regarde la honte. Et quand il est décédé, ils sont allés sur le compte bancaire, etc., pour voir où est cet argent-là. La seule chose qu'ils ont trouvée, c'est un petit carnet sous son oreiller. Et dessus, tout l'argent qu'ils ont envoyé, elle mettait les noms des missionnaires à qui elle les donnait. Ils ont tout compris. Une femme de prière. Le témoignage qu'elle a laissé, donnez-moi certes, mais elle l'a donné pour l'œuvre du Seigneur. J'ai entendu ce témoignage, je peux vous le partager si vous voulez, qui est très touchant. Et c'est ces deux-là que je vais vous lire simplement ce qu'ils ont écrit. Le premier s'intitule « Excepté prier, nous ne pouvons rien faire. La seule chose que nous pouvons faire, c'est prier. Savez-vous que le royaume de Dieu ne viendra pas sans la prière? Ceux qui nous sont hors d'atteinte n'entendront jamais parler du doux nom de Jésus sans le labeur des prières conduites par l'Esprit. Indépendamment de la façon dont les choses peuvent apparaître en surface, rien de ce qui a une valeur éternelle n'est jamais sorti sans que quelqu'un, quelque part, ait prié. Parce que la prière, de par sa nature, est souvent un travail caché qui se fait dans la chambre secrète. Malgré les apparences, la prière est un des moyens de grâce élémentaires de Dieu pour que nous accomplissions les désirs de son cœur. Notre Seigneur a souverainement voulu diriger son royaume selon la loi simple que celui qui demande reçoit. La prière n'est pas un certain système ou arrangement humain, c'est la stratégie ouinte de Dieu. Le roi Jésus nous propose une offre. Demandez, il en vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, il en vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, il en ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, versets 7 à 8. Aujourd'hui, l'Église et le monde sont aussi bien malades du péché que souffrants parce que ceux qui s'appellent croyants n'ont pas pris ces promesses au sérieux. Nous n'obtenons pas parce que nous ne demandons pas, selon Jacques, chapitre 4, verset 2. L'enfer est plus grand aujourd'hui qu'il ne l'était hier, parce que beaucoup d'entre nous n'avons pas prié. Dieu a ordonné à tous les croyants d'étendre partout son royaume par le travail de la prière et l'intercession. Jésus nous a tous chargés de prier pour que son royaume vienne. Matthieu chapitre 6, verset 10. Nous pouvons ne pas être tous appelés à aller aux extrémités de la terre pour prêcher, mais chacun d'entre nous a été appelé à aller à la chambre secrète pour prier. Toutefois, quel genre de prière Dieu exige-t-il de nous? Est-ce que toutes les prières sont efficaces? Est-ce qu'une prière mécanique de 2 minutes nous fait vraiment pénétrer dans le royaume de Dieu? L'épître de Jacques nous enseigne exactement à quoi une prière efficace du royaume ressemble. Jacques écrit dans Jacques chapitre 5 verset 16 à 18. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. La prière efficace revendique les promesses de Dieu par la foi, avec une passion fervente et implacable. 1 Rois, chapitre 18, versets 41-45, nous dit que qu'Élie pria non une fois, non deux fois, mais 7 fois avant que les pluies fructueuses du réveil ne fussent venues. La prière qui affecte vraiment le monde autour de nous est extrêmement intense et persistante. Comme pour tout ce que Dieu exige de ses enfants, la prière doit être faite de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Deutéronome chapitre 4 verset 29 et Deutéronome chapitre 6 verset 5. Laissez-moi vous rappeler que Jésus nous a aussi donné un exemple de cette sorte de prière intense et fervente. Dans Hébreux chapitre 5 verset 7, les Écritures nous rapportent « Dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. » Jésus se consacrait à la pratique régulière de l'agonie et de la prière fervente. Jésus a-t-il pleuré et prié avec une ferveur si intense à cause d'un manque de foi ou parce qu'il éprouvait un sentiment de condamnation? Jésus n'avait certainement rien au sujet duquel il put être condamné. À la différence de nous, il passa des heures dans la prière chaque jour et n'utilisa jamais une quelconque partie de ce temps de son temps à se lamenter sur son péché ou sur son manque de foi. Sans aucun doute, Jésus pria comme personne d'autre n'a jamais prié. Sa vision illimitée de l'éternité dirigeait sa vie de prière fervente. Le cœur de Jésus était consumé par la vue des multitudes d'âmes perdues, passées, présentes et futures. Notre manque de prière fervente est le résultat direct de notre cécité vis-à-vis des faits d'un ciel éternel et d'un enfer sans fin. Beaucoup d'entre nous sommes toujours bien trop motivés pour le royaume temporel et sensuel, par les choses que nous pouvons personnellement voir, goûter et toucher. Mais faute de vision, le peuple périt. Il rappelle le Proverbe 29. Verset 18. Là où il n'y a aucune vision de l'éternité, il n'y a aucune prière pour ceux qui périssent. La prière ouvre les portes des prisons et les portes de la prédication. La prière lie l'ennemi et ouvre le ciel. La prière est la charrue qui laboure la terre en jachère en vue de la semence de l'évangile. La prière amène la manifestation de la gloire du royaume de Jésus-Christ. Donc, peut-il y avoir vraiment une telle chose qu'un chrétien aimant authentiquement les âmes des hommes qui ne prie pas patiemment pour eux? Est-il vraiment possible de prêcher sur les millions de gens non atteints dans le monde et ne pas ensuite ardemment prier pour eux? Non, bien sûr, que c'est impossible. Mais j'ai peur que ce soit exactement ce que beaucoup font. Beaucoup, à partir d'un faux sentiment d'accomplissement personnel, parlent, écrivent et prêchent sans jamais prier ardemment. Aujourd'hui, les cris d'affliction de Jésus retentissent partout dans le ciel. Avez-vous jamais entendu ce cri obsédant? N'avez-vous jamais ressenti les battements du cœur brisé de Jésus? Il soupire à ce que sa jeune mariée, c'est-à-dire l'Église, rentre dans son brisement par la prière fervente et pleine d'amour. L'Esprit de Dieu s'écrit à chacun d'entre nous aujourd'hui. La moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc, selon Matthieu 9, versets 37 et 38. Voilà ce que nous dit ce premier frère. Son texte est long sur la prière. Le deuxième frère, je crois qu'il a changé de nom, donc je ne vous ai pas donné son nom tout à l'heure, mais c'est Yohanan, bon, il a pris le nom hébraïque, on va dire. Voilà ce qu'il nous dit. C'est ce frère qui vient d'Inde, qui a vécu selon l'expérience dans sa chair, sa relation avec le Seigneur. La prière n'est pas un nouveau produit à commercialiser. Aujourd'hui, nous avons des tours de prière, des vêtements de prière, des numéros à composer pour écouter des prières enregistrées, des lignes de prière directes, des livres, des lettres, des cassettes. C'est un ancien écrit. Des cassettes, des cartes, des agendas de prière, des montres de prière, des perles, des amulettes, des babioles à gogo. Mais moins de prières que jamais. Il y a des séminaires interminables, des ateliers, des retraites, des enseignements sur la prière. Mais nous devons toujours nous poser la question. Où est le Dieu vivant au milieu de ces produits et ces événements? Ce n'est pas de davantage de formation. C'est son expérience qui parle. Ce n'est pas davantage de formation ni de plus de séminaires dont nous avons besoin. Nous avons besoin plutôt d'hommes et de femmes qui se jettent à genoux pour prier. Ceux qui feront cela, dépendant totalement du Dieu vivant, sont ceux que Dieu utilisera pour remuer cette génération. Trop souvent, nous assimilons le fait d'apprendre sur le sujet de prière à la prière elle-même. Pour d'autres, la promotion de la prière a éliminé la prière elle-même. Ce qui passe pour être de la prière dans ces cas-là est le plus souvent l'activisme irréfléchi, qui confond mouvement et vie. La prière n'est pas une technique de gestion. Le calendrier chrétien est saturé de soi-disant réunions de prière, de chaînes de prière, de marches, de veilles et de nuits de prière, de demi-nuits de prière ou d'une quantité d'autres mouvements de prière secrètement conçus pour promouvoir des causes secondaires. Certaines de celles-ci sont réelles et il faut louer le Seigneur. D'autres sont simplement utilisées comme une technique de promotion par des mouvements pour attirer les gens, des sectes, des organisations religieuses. La prière réelle est un combat spirituel. Elle requiert de nous que nous luttions contre le monde, contre la chair et contre le diable, les surmontant dans la puissance du Saint-Esprit, plutôt que dans notre propre chair et notre propre pensée. Par conséquent, la première exigence dans la prière est que nous venions près de Dieu. Plus nous nous asseyons à ses pieds et contemplons ses yeux, plus nos prières reflèteront tout simplement sa pensée. Alors que nous rentrons toujours plus profondément dans le cœur de Jésus parce que nous cherchons à le connaître, nous prierons selon sa volonté parce que nous connaîtrons sa volonté. Comment pouvons-nous franchir ce pont vital menant à la réalité? Comment pouvons-nous avoir une vie de prière significative? Eh bien, premièrement, la prière doit devenir la priorité numéro un du chrétien. La priorité numéro un, c'est pas lire sa Bible, c'est prier. La prière vient toujours en premier dans l'horloge de Dieu. Nous devons inverser le processus de pensée moderne dans le but de découvrir la réalité spirituelle. Dans le naturel, nous commençons par nos besoins et désirons que les problèmes soient résolus. Nous établissons alors des objectifs et un programme à partir de ceux-ci, plutôt que de nous attendre à Dieu pour obtenir la direction. Nous comptons sur nous-mêmes pour trouver les solutions. Nous avons confiance dans notre beauté, dans nos finances, dans notre intellect, dans nos forces et dans nos talents. La science et la technologie nous ont appris à faire des expériences, étudier et rechercher des solutions. Ceux qui ont tout misé sur ce mensonge croient qu'ils peuvent résoudre tout problème dans leur vie personnelle. Puisqu'ils ne croient pas réellement qu'ils ont besoin de Dieu, la prière ne joue aucun rôle dans une bonne partie de leur calendrier. Lorsqu'elle le fait, elle tend à être à la fin plutôt qu'au début de leurs efforts. Combien différent ceci est-il de l'approche d'un homme ou d'une femme spirituelle? La personne pieuse, tout d'abord établit des objectifs sur ses genoux, plutôt que sur la planche à dessin. Le serviteur que Dieu choisit d'utiliser est celui qui a appris que s'il semble qu'il y ait une quelconque explication humaine à nos succès, c'est que celui-ci en est probablement un faux. Ce chrétien-là sait que l'on tend à prier mieux sans ordinateur, ni diplôme, ni construction, ni argent, ni bonne apparence, ni habilité, ni talent. Lorsque nous sommes libérés de toute dépendance sur le plan humain, alors, et c'est seulement alors, nous sommes en mesure de faire confiance à Dieu plutôt qu'à nous-mêmes. À moins que nous n'apprenions à mettre de côté notre confiance dans toutes ressources humaines et n'apprenions à nous attendre à Dieu comme la priorité numéro un de notre vie, nous sommes encore dans le parc de jeu des enfants. Deuxièmement, nous devons investir du temps dans la prière. Bien sûr que de longues heures passées dans la prière ne sont pas un signe de proximité avec Dieu. Il est plus important que nous venions dans sa présence à la manière d'un enfant, et nous l'avons dit combien de fois. Il est plus important que nous venions dans sa présence à la manière d'un enfant, tout comme Anne l'a fait, avec un abandon désespéré et une soumission à sa volonté. Elle ne pouvait pas prononcer un mot devant Dieu. Et cependant, le Seigneur lui a donné le miracle de la conception en réponse à ses silencieuses supplications. Néanmoins, nos agendas trahissent trop souvent notre indifférence à Dieu. Le fait est simplement que personne ne peut parvenir à connaître Dieu sans passer du temps avec lui. Si nous aimons le Seigneur, comme nous le disons, comment pouvons-nous passer si peu du temps dans sa présence? Nous luttons pour disposer de temps de qualité avec nos amis et notre famille. Des millions d'entre nous structurent leur vie autour de leurs émissions de télévision préférées, des événements sportifs et des vacances. Toutefois, pourquoi est-ce si difficile de prendre un rendez-vous avec Dieu, de passer une heure ou deux chaque jour dans la prière? Nos vies sont si saturées de frénétiques activités que nous l'avons d'emblée écarté de l'emploi du temps de nos journées. Est-ce étonnant le moins du monde que notre christianisme soit si inefficace, si faible et si dénué de puissance? Il n'y a qu'une seule façon de voir un changement. Nous devons faire de la prière une priorité et mettre du temps de côté pour cela chaque jour. Christ appelle tout croyant à venir à l'écart pour jouir d'une intimité spirituelle avec lui à travers différents aspects de la prière. L'adoration, la confession, l'intercession, l'écoute, les actions de grâce, la supplication, la louange, le chant et le fait de s'attendre à lui. Ceci n'est pas une invitation lancée seulement à quelques saints audacieux, mais un accès à la présence de Dieu offert à tous les croyants du Nouveau Testament. Et ceci vient entièrement de la grâce par la foi. Dieu désire avoir une intimité avec chacun de nous. Répondons-nous à cet appel? Nous, en tant qu'individus, pouvons faire de la prière une partie de notre style de vie quotidienne. Ceci si nous sommes disposés à rompre avec nos habitudes afin de vivre avec et pour Dieu. Au début de l'année 1976, lorsque le Seigneur a commencé à briser mon cœur au sujet des perdus dans le monde, l'une des premières choses que nous avons faites en tant que famille a été d'appeler un petit nombre de nos amis pour démarrer une réunion de prière dans notre maison. Cette réunion du mardi soir continue toujours, sans faillir, après toutes ces années. Nous passons la première partie de la soirée dans l'adoration et la louange, avec de brefs témoignages et des actions de grâce. Nous ne passons pas le temps à bavarder, mais écoutons des comptes rendus venant des différents pays, du monde, d'individus, de tribus et de groupes de gens non atteints. Nous lisons des lettres, des requêtes de prière provenant de tous les États-Unis, du Canada, ainsi que de l'étranger. Fréquemment, nous nous interrompons pour nous séparer en petits groupes afin de prier sur chaque requête. De cette façon-là, nous avons vu des centaines et des centaines de réponses spécifiques à la prière. S'il n'existe pas un groupe de prière dans votre église ou votre voisinage, pourquoi ne pas en démarrer une? S'il en existe déjà une, pourquoi ne pas y aller pour adjoindre votre foi et votre chaleur à ce groupe? 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, nous révèle que le cœur de Dieu a ce propos. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il veut nous bénir. Il recherche ceux qui ont un cœur totalement tourné vers lui. Le monde cherche des gens beaux et sûrs d'eux-mêmes pour diriger et le distraire. Mais Dieu recherche des personnes humbles et dépendantes de Christ. Pour ceux qui sont disposés à confesser leur suprême dépendance de Dieu dans la prière, la vie rentre dans le domaine du surnaturel. Et cette puissance est disponible pour les familles, les églises et les organisations dans lesquelles les individus sont disposés à commencer à vivre une vie forgée par la prière. Le chapitre 11 d'Hébreux est un nombre et un ordre incalculable d'autres passages nous révèlent qu'il y a toujours eu, tout au long de l'histoire, une poignée de gens qui atteignent et touchent Dieu dans la foi à travers la prière. Lorsque nous les rejoindrons sur nos genoux, nous verrons la puissance de Dieu agir dans nos vies comme dans les leurs. Nous recevrons la vision et les directives dont nous avons besoin pour avancer surnaturellement avec Dieu et accomplir sa volonté. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des personnes, il y a des nations, il y a des peuples qui demeurent sans Christ. Il y a des familles qui éclatent tout autour de nous et des individus qui sont pris dans les liens du péché. Il y a des prisonniers qui ont besoin d'être libérés, des affamés qui ont besoin d'être nourris et des malades qui ont besoin d'être guéris. Il y a des églises et des voisinages et des individus dans votre propre communauté qui ont besoin que Dieu les visite et les touche. Le Seigneur cherche des individus qui se sont vidés de leur propre suffisance afin d'accepter dans un esprit de prière le défi d'atteindre ces gens pour le salut. Par la prière, vous pouvez intervenir dans ces vies et situations de nécessité pour amener la puissance de Dieu dans les vies des perdus et des gens solitaires. Et ce frère termine par une question. N'allez-vous pas, par des moments de prière personnelle et collective, vous joindre à ce combat cosmique en vue de les gagner à Christ? Voilà comment il a terminé son texte. Comme vous le voyez, je voulais partager avec vous parce qu'il m'a touché moi le premier. C'est dur, c'est clair, mais au moins devant le Seigneur, on ne peut pas se mentir. J'ai besoin de vous, mes frères, pour que j'apprenne à prier. Peut-être vous avez besoin de moi pour apprendre à prier. Joignons-nous à la prière et nous ne mentons pas. S'il n'y a pas de vie prière, c'est se mentir que de dire nous vivons une communion avec le Seigneur. Que Dieu nous aide. Amen.